J'ai beaucoup hésité à faire cet exposé sur la mécanique quantique. J'avais même commencé par refuser il y a plusieurs années d'en parler parce que, oui, je disais, je reculais un peu devant la difficulté parce que la mécanique quantique, c'est une chose qui n'est pas très simple. Et si j'ai essayé de faire ça aujourd'hui, c'est parce que le problème a ressurgi avec l'histoire de la médecine quantique. Et je me suis dit, c'est un peu regrettable de ne pas essayer de donner une idée aux gens de ce qu'est en réalité la mécanique quantique, ou plus exactement, quel est son objet, de quoi ça parle, si vous voulez. Et vous ne serez pas de bons mécaniciens de la mécanique quantique en sortant, mais j'espère que vous aurez idée de quoi ça parle. C'est ça, en tout cas, qui est mon objectif. C'est celui-là. Ah ben voilà. Voilà, le début, c'est le début du XXe siècle, en fait. C'est une science assez récente qui a été, au départ, initiée donc par Planck et Einstein. Planck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été amené, Planck, à postuler que la lumière était quantifiée, que le rayonnement était quantifié, pour s'affranchir de ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette. Alors, pourquoi il y aurait une catastrophe ultraviolette? C'est parce que lorsqu'on applique les règles de la thermodynamique classique à un corps noir, c'est-à-dire, en gros, si vous voulez, vous prenez un four, imaginez un four bien chaud, il y a du rayonnement là-dedans. Si on essaye d'appliquer les règles de la mécanique statistique classique à ce four, on trouve qu'il contient une énergie infinie. Et c'est ennuyeux, parce qu'on se demande où elle sortirait. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette, parce que c'est dans l'ultraviolet que se trouverait le maximum d'énergie. Cette catastrophe ultraviolette, elle n'a pas lieu si on en considère que le rayonnement est quantifié, pour des raisons que je ne veux pas rentrer dans les détails de ces calculs, qui sont à la fois de mécanique quantique et de thermodynamique, c'est un peu compliqué, mais quand même, ça affranchit ce résultat de cette catastrophe. Et par contre, Planck, curieusement, il dit ça, il dit en gros, voyez, c'est marrant, si on quantifie le rayonnement, il n'y a plus de catastrophe. Mais il n'y croyait pas. Il ne croyait pas que ce soit la réalité, mais il trouvait que c'était une bonne astuce pour faire disparaître la catastrophe ultraviolette. Alors Einstein, c'est presque en même temps, lui, il est rentré par un autre problème qui était celui de l'effet photoélectrique. Vous savez tous ce que c'est que l'effet photoélectrique, puisque c'est ce qui se passe lorsqu'on fait du photovoltaïque. C'est ça l'effet photoélectrique, hein. C'est la production d'électricité à partir de la lumière. On éclaire quelque chose. À l'époque, ils n'avaient pas des panneaux solaires très beaux comme maintenant. Ils avaient par contre du zinc. Avec le zinc, ça marche aussi, l'effet photoélectrique.
Bonjour, c'est bien là. Oui, rentrez.
Et,
Einstein
a compris que les propriétés de l'effet photoélectrique supposaient une quantification de la lumière. Si vous voulez, l'idée de l'effet photoélectrique, c'est la suivante. Vous envoyez de l'énergie lumineuse sur un panneau, mettons du zinc, dans l'affaire c'était du zinc, mais peu importe le délai, sur un panneau photoélectrique. Si vous éclairez votre panneau avec de la lumière rouge, il ne se passe rien. Si vous l'éclairez avec la lumière bleue, vous avez du courant. Et vous pouvez mettre très peu de lumière bleue, vous aurez très peu de courant, mais vous en aurez toujours. Vous pouvez mettre autant de lumière rouge que vous voulez, vous n'en aurez jamais. En quelque sorte, il y a une différence de qualité entre la lumière bleue et la lumière rouge. Et cette différence de qualité n'est pas du tout une différence d'énergie. Elle est une différence sur la façon dont l'énergie est contenue dans la lumière en question. Et non pas du tout le fait qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup d'énergie. Et en gros, si vous voulez, Einstein a compris que ceci était analogue à l'idée de... Imaginez que vous avez des grains de sable, vous lancez des grains de sable sur une vitre, vous pouvez en lancer un milliard en suivant, vous ne casserez pas la vitre, mais si vous envoyez un caillou, vous cassez la vitre. Le caillou est plus gros qu'un grain de sable. Et le caillou fait plus d'effet qu'un milliard de grains de sable successifs. Donc c'était ça l'idée de Einstein. Et donc lui, il a expliqué le rayonnement photoélectrique avec ça. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Tout le monde croit qu'Einstein a eu le prix Nobel pour la mécanique relativiste. Pas du tout, il a eu le prix Nobel pour ça. à vrai dire, il aurait eu le prix Nobel pour la mécanique relativiste, pour la relativité, si les gens avaient cru que c'était bien, bien compris. Mais s'il y avait des doutes sur la relativité au moment où il a eu le prix Nobel. C'est le plus. C'est suffisant. Hein. Voilà. Donc c'est ça l'idée des deux, c'est que la lumière se manifeste par des quantités discrètes qui sont... Plus tard, on les appelait photons, eux, ils ne les avaient pas appelés photons. Et cette discrétisation, si vous voulez, de la lumière qui contient des quantas d'énergie, c'est ça la base de la mécanique quantique. C'est la seule formule de tout à l'heure. En gros, l'énergie d'un faisceau lumineux monochrome, si vous voulez, c'est grand N, c'est un nombre de photons, H, c'est une constante dite de Planck, mais c'est très bien, F, c'est la fréquence de la lumière, et vous avez une énergie qui est un multiple de HEF, si vous voulez, de l'énergie d'un photon. L'énergie, c'est le nombre de photons multiplié par l'énergie d'un photon. Voilà ce que c'est l'énergie d'un faisceau lumineux. D'un faisceau lumineux où tous les photons ont la même fréquence, bien sûr. Si vous mélangez plusieurs fréquences, vous faites la somme sur les différentes fréquences. Voilà, c'est ça l'idée de la quantification de la lumière. Et c'est une chose qui était difficilement conciliable avec ce qu'on savait jusque-là sur la lumière, et qui n'est pas faux. Fresnel, si vous voulez, avait montré, en gros c'est Fresnel, hein, il y a d'autres, mais c'est Fresnel la base, que la lumière est un phénomène ondulatoire, et que ce qui ondule dans la lumière, c'est des champs électromagnétiques, en plus. Rien n'était simple pour montrer que les deux choses pouvaient coexister. Il y a tout un travail théorique que je ne ferai pas ici, pour montrer qu'on peut avoir une vision ondulatoire en même temps qu'une vision corpusculaire, que les deux ne sont pas contradictoires. Si vous préférez, les deux choses coexistent dans la lumière, et c'est la façon dont on fait une expérience ou dont on se sert de la lumière qui fait que c'est une des formes qui se manifeste plutôt que l'autre. Quelquefois c'est les deux, mais c'est rare. Donc ça c'est la lumière. Mais il n'y a pas que la lumière dans la mécanique quantique. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce truc. Cliquez pour ajouter un livre. Parce que je ne l'ai pas. Ah. Sur le mien, ça n'apparaît pas.
Bon, ça... Peu importe.
Et donc la mécanique quantique a vocation à s'intéresser aussi à la matière. Et je vais prendre un exemple sur la matière qui est celui de l'atome d'hydrogène, parce que c'est la chose la plus simple qu'on connaisse du point de vue de la matière. Un atome d'hydrogène, c'est un noyau, tout simple, un proton, et un électron. Et l'idée classique, c'est que l'électron tourne autour du noyau. Ça, c'est l'idée de la mécanique classique. Exactement comme la Lune tourne autour de la Terre, ou la Terre tourne autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire. Le modèle planétaire, c'est un électron tourne tranquillement autour du noyau. Il y a des forces entre les deux. Bien sûr, l'électron il est chargé négativement, le noyau il est chargé positivement, il y a une force d'attraction, et cette force d'attraction assure le fait que l'électron reste autour du noyau et qu'il tourne. Alors il peut avoir une trajectoire circulaire ou elliptique, plus ou moins, mais c'était ça les idées de la mécanique classique. Et ça présente de nombreux défauts. Ça, on a vite compris que cette image, si vous voulez, ce modèle planétaire, il est insuffisant. En tout cas, il ne rend pas compte d'un tas de choses comme propriété. Je l'ai mis dans le désordre un peu, mais la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'un atome resterait stable? Pourquoi est-ce que l'électron ne tombe pas sur le noyau? Quand vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, il peut finir par tomber sur la Terre. On n'a jamais vu ça de la part d'un noyau d'hydrogène que l'électron tombe dedans. Ça ne s'est jamais vu encore. On a vu l'inverse, mais pas ça.
L'inverse, c'est-à-dire, je crois.
C'est-à-dire qu'un neutron donne lieu à un proton et un électron.
D'accord.
Un neutron peut se transformer en proton plus électron, sans aucune difficulté. Et à ce moment-là, éventuellement, l'électron tournerait autour du noyau. En général, il s'en va, mais il peut revenir. Mais on n'a jamais vu qu'un électron tombe sur un noyau pour donner un neutron. Le fait aussi que, lorsque on regarde d'un point de vue classique un électron qui tourne autour d'un noyau, ça c'est une charge en mouvement, et une charge en mouvement qui tourne, normalement ça devrait donner lieu à un rayonnement électromagnétique qui se propage. C'est-à-dire que l'idée classique d'un modèle planétaire d'électrons tournant autour d'un noyau devrait s'accompagner d'un rayonnement émis par l'atome d'hydrogène qui perdrait de l'énergie peu à peu, qui aurait donc une trajectoire qui deviendrait de plus en plus serrée jusqu'à tomber sur le noyau. Et ce n'est pas la réalité. Ça, ça n'existe pas non plus. Un noyau d'hydrogène, un atome d'hydrogène ne rayonne pas du tout à l'état stable. Et enfin, la quantification des niveaux, alors ça c'était le résultat de la spectroscopie qui a commencé à arriver déjà à ce moment-là, c'est ce qu'on appelait les spectres d'hydrogène, qui sont une chose tout à fait importante. Non pas tellement pour ce qu'on s'en sert, on ne fait pas de lumière tellement avec l'hydrogène, mais le spectre de l'hydrogène est un moyen d'investigation de la cosmologie tout à fait important. Les astronomes utilisent beaucoup les rays de l'hydrogène, pour différentes raisons. Et on commençait à connaître le spectre de l'hydrogène, c'est-à-dire lorsque vous avez un noyau d'hydrogène, un atome d'hydrogène, pardon, suffisamment chaud ou excité, il se désexcite et il donne des raies. Il ne donne pas de la lumière en continu, il donne des raies spectrales bien précises. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences bien précises associées à cette désexcitation. Ce qui montre qu'il y a des énergies bien précises associées à la liaison électron-noyau. Voilà, la liaison électron-noyau, elle a des énergies très précises. Quand ça passe d'un état à l'autre, ça émet de la lumière avec une fréquence bien déterminée ou une énergie bien déterminée, et c'est pas n'importe quoi. Tout ça, c'est complètement invraisemblable pour le modèle classique. Et donc, un modèle différent, tout à fait différent, qui est le modèle quantique, que je ne développerai pas, mais que je vais essayer de vous faire... Voilà. Alors, mon dessin, c'est des petits points parce que je ne sais pas faire des dégradés. J'ai fait ce que j'ai pu. L'idée quantique, c'est la suivante. Vous avez un noyau au centre. Vous avez un électron. Il ne tourne pas autour. Il est quelque part autour. Il ne tourne pas. Du moins, pas dans tous les... Il y a des états peut-être où il tourne, mais pour l'état stable, il ne tourne pas. L'état le plus simple, il ne tourne pas. Il est simplement plus ou moins proche... En probabilité, il est plus ou moins proche du noyau. Voilà. Il a quelques chances d'être près, il a des chances d'être moins de chances d'être plus loin. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une certaine probabilité d'être près, une certaine probabilité d'être loin. Et on le représente comme un nuage de probabilité. Moi, j'ai fait un nuage de points, parce que je ne suis pas bon pour le dessin. Mais l'endroit le plus probable où vous pouviez le trouver, c'est sur le noyau. C'est l'endroit le plus probable. Mais c'est simplement un endroit parmi d'autres. Vous avez des... Évidemment, plus vous le regardez dans le détail, plus vous trouvez que la probabilité d'être ici est un peu plus grande que là, ou un peu plus petite que ici, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai essayé de résumer cette description quantique. On ne parle plus de mouvement, on parle de probabilité de présence. La probabilité de présence à tel ou tel endroit, c'est ça qui va définir la situation de l'électron au voisinage, je ne dis pas autour, au voisinage du noyau. Mais en fait, exactement comme lorsqu'on imagine un électron qui tourne autour du noyau, il peut avoir plusieurs trajectoires, plusieurs, peut être soit circulaire, soit elliptique, il y a donc plusieurs façons de tourner. Il y a pour l'électron aussi, dans l'atome d'hydrogène, plusieurs façons de se comporter. Il peut avoir plusieurs états possibles. Ces états, celui que j'ai représenté tout à l'heure, celui-ci, c'est par exemple, c'est l'état qui a la plus faible énergie. C'est ce qu'on va appeler l'état fondamental. C'est celui qui est, où le système finira toujours par arriver là si on lui laisse le temps ou les moyens d'y arriver. Mais il peut avoir d'autres états qui sont plus énergétiques. Lorsqu'il passe d'un état à un autre, il perd de l'énergie. Ou si vous lui en accordez, si vous lui en donnez, vous, par différentes méthodes, soit en le chauffant, soit avec impulsion électrique, soit avec de la lumière, vous pouvez le faire passer à un état de plus forte énergie. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que ces transitions d'un état à un autre font appel à des énergies très précises, très discrètes. C'est ça l'origine des spectres de l'atome d'hydrogène. Et donc là, on arrive à une idée qui est complètement nouvelle, c'est que si on veut parler de l'état d'un électron au voisinage d'un noyau, il faut parler d'une fonction qui va décrire sa probabilité de présence. Cette fonction qui décrit la probabilité de présence, c'est ce qu'on appelle en mécanique quantique la fonction d'onde. Et comprenez bien que ce mot, il est ambigu. Il laisse croire qu'il y a une onde qui se propage. Il n'y a pas forcément quelque chose qui se propage. Dans un électron autour d'un noyau, il n'y a rien qui se propage, mais il y a une fonction qui décrit une probabilité. On l'appelle fonction d'onde. Ce mot a beaucoup fait, a créé beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, parce qu'ils voyaient tout de suite une onde. Il n'y a pas d'onde dans l'affaire. Il y a une probabilité et une fonction. Éventuellement, cette fonction d'onde peut décrire vraiment une onde. Si vous avez une onde qui se propage, elle est aussi décrite par une fonction d'onde, avec une onde qui se propage. Mais si vous voulez, le mot de fonction d'onde ne décrit pas toujours une onde. Il décrit éventuellement un phénomène stationnaire. Ou si vous préférez encore, il y a des fonctions d'onde qui sont celles d'ondes stationnaires. Une fonction d'onde, si vous voulez, ça décrit une probabilité de présence d'un électron autour d'un noyau pour l'atome d'hydrogène. Mais vous pouvez imaginer la fonction d'onde de systèmes beaucoup plus compliqués. Plus le système est compliqué, plus la fonction d'onde est compliquée, puisqu'elle doit décrire tous les électrons, tous les protons et tous les neutrons du système. Enfin, donc c'est quelque chose qui peut être horriblement compliqué, une fonction d'onde. Déterminer les fonctions d'onde, c'est un problème qui est posé, si vous voulez, depuis 1912 environ, et qui continue à animer et à agiter beaucoup de gens parce qu'on cherche à décrire des fonctions d'onde pour des systèmes de plus en plus compliqués. On a des méthodes de plus en plus performantes qui se sont créées au fil des années et des décennies pour calculer des fonctions d'onde. Vous me direz à quoi ça sert de calculer des fonctions d'onde. C'est une chose qui est extrêmement précieuse pour comprendre les propriétés de la matière. Voilà. Si on veut comprendre les propriétés de la matière, on est amené à essayer de donner au moins des approximations, de se rendre compte comment sont fichues les fonctions d'onde qui la régissent. Et c'est un lourd boulot. Même pour des systèmes pas trop compliqués, c'est déjà compliqué, c'est déjà difficile. La première publication concernant les fonctions d'onde, c'était une publication de Schrödinger qui a écrit une courte note et il disait « Voyez comme c'est marrant, si vous prenez cette équation que vous essayez de la résoudre, vous trouvez des fonctions qui représentent bien les propriétés de l'atome d'hydrogène. » Et c'est comme ça qu'il a introduit cette façon de calculer, la première façon de calculer les fonctions d'onde, qui était l'équation dite de Schrödinger, qui a fait couler des flots d'encre pour les physiciens. Non, le chat de Schrödinger, c'est pas l'équation de Schrödinger, c'est une autre histoire. Je n'ai pas trop envie de parler du chat de Schrödinger pour le moment. Je vous en parlerai s'il y a des questions, mais c'est le même Schrödinger, mais ce n'est pas la même équation. Voilà. Et alors, on est parti avec la lumière, si vous voulez, on a vu que la lumière avait un aspect corpusculaire. Maintenant, je suis reparti avec l'atome d'hydrogène. Je vous ai montré que l'atome d'hydrogène avait un aspect onde qui était là-dedans. Et ce que dit la mécanique quantique, c'est que c'est pas les objets ne sont pas l'un ou sont pas l'autre. Les objets sont l'un et l'autre. Et suivant la façon dont ils interagissent avec le reste du monde, on va voir plutôt un aspect ou plutôt l'autre aspect. Quand vous avez de la lumière, vous pouvez faire apparaître l'aspect ondulatoire. Si vous faites une expérience des miroirs de Fresnel, c'est une expérience d'interférence ou de diffraction. Vous ferez apparaître l'aspect corpusculaire si vous faites de l'effet photoélectrique. Et c'est vous qui avez déterminé quel est l'aspect qui apparaît dans votre expérience. Mais la lumière, elle n'est l'un et l'autre. Elle n'est pas l'un ou l'autre, elle est l'un et l'autre. Alors par contre, si une particule a un aspect ondulatoire, on peut lui associer une fréquence et une longueur d'onde. Alors, je vous ai donné, c'est des exemples numériques, mais ça ne fait rien. Un électron sous 10 000 volts, c'est pas très rapide quand même, hein. 10 kV, c'est pas grand-chose. Vous voyez que ça a une fréquence déjà élevée et une longueur d'onde petite. La fréquence, c'est 10 puissance 16 Hz, ce qui veut dire que c'est de la très haute fréquence par rapport à, par exemple, à la radio. Et c'est une longueur d'onde qui est vraiment petite, puisque 10-12 mètres, c'est à peu près, pour donner un ordre de grandeur, un centième de la distance entre deux atomes. Dans une distance classique entre deux atomes, c'est 10 moins 10 mètres, si vous voulez. Là, on est à 10 fois moins, quoi. Donc, ces longueurs d'onde sont, si vous voulez, associées à la matière, sont généralement très petites. Et ceci a une conséquence, c'est que ça a permis de faire des microscopes électroniques qui marchent beaucoup mieux que les microscopes optiques. Alors, maintenant, il faut revenir sur cette notion d'état. Qu'est-ce que je vous ai parlé? Je vous ai dit qu'un électron autour d'un noyau, il était dans un état ou dans un autre état. Ces états sont le plus souvent discrets, c'est-à-dire que, en général, un système peut avoir ce qu'on appelle un continuum d'états, il ne peut avoir que quelques énergies possibles, enfin, quand je dis quelques énergies, ça peut être quelques milliers d'énergies, mais enfin, c'est un nombre discret, c'est un nombre fini, c'est un nombre, oui, discret d'énergie. Ce n'est pas toutes les énergies possibles comme dans l'idée classique d'un système mécanique.
Est-ce que je peux t'interrompre avec une phrase de Feynman?
Vas-y.
Qui disait, alors Feynman, c'était un prix Nobel.
Oui, oui.
Etc. Il disait à ses étudiants.
Il n'est pas mort.
Il n'est pas mort?
Non.
Ah, je crois qu'il était mort.
Je crois pas.
Alors il disait quand même à ses étudiants, ne cherchez pas à comprendre la physique quantique, moi-même j'y comprends rien. C'était une boutade.
Mais c'était un peu une boutade.
Ça voulait dire que. C'est hors du sens commun.
Voilà. Oui, voilà, ça c'est vrai. Voilà. On n'a pas l'intuition de la mécanique quantique. J'essaye de vous donner une idée des concepts. Vous pouvez les trouver extrêmement bizarres. Et personne n'a l'intuition de la mécanique quantique. Et donc, travailler dans la mécanique quantique, ça suppose de longs moments d'apprentissage et de rigueur, parce qu'il n'y a rien de très intuitif là-dedans. Ou si vous préférez, on ne commence à avoir l'intuition de certains résultats de mécanique quantique qu'après quelques centaines d'heures de travail. Mais, ben, chacun son métier. Louis de Broglie a parlé de... C'est pas exactement lui qui a le... Enfin, il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il a donné une première idée des fonctions d'onde, qui était ce qu'il a appelé la mécanique des ondes aussi, qui n'était pas exactement la même, dont on a mis un moment à comprendre qu'elle était à peu près la même chose que ce que disait, par exemple, Heisenberg. Mais que ce n'était pas dit avec le même vocabulaire. Mais il n'y avait pas de contradiction entre ce que disait Louis de Broglie et ce que disait Heisenberg. Et pendant un certain temps, on avait l'impression que c'était deux façons différentes d'interpréter la mécanique quantique. C'était en réalité deux modes... De description équivalent et qui n'était pas sur le même vocabulaire. Et donc c'était concomitant en fait. Alors l'idée à laquelle je voulais prendre maintenant, qui est un peu différente, c'est une idée nouvelle dans l'affaire, c'est que lorsque vous avez un système classique et que vous connaissez son énergie, prenez par exemple, vous avez un pendule qui oscille, vous savez bien qu'est-ce qui se passe, il va de gauche à droite, comme là il a de l'énergie potentielle. Et là, il a de l'énergie cinétique, là, il a de l'énergie potentielle, là, il a de l'énergie cinétique. Vous connaissez bien tous les détails de sa situation. Si on vous a dit l'amplitude du mouvement, la longueur du pendule, ce qui est accroché, etc., vous connaissez tout du système. Pour un système quantique, non. Vous ne connaissez pas tout du système, toutes les propriétés qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que vous pouvez savoir dans quel état il est, mais ceci ne vous dit pas forcément tout ce qu'on peut imaginer de mesurer dessus. C'est ça qui s'appelle en physique quantique le principe d'incertitude. Et je vais essayer de vous donner une idée du principe d'incertitude en partant de quelque chose qui est l'analogue pour une onde. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de représenter ici? J'ai essayé de représenter ce qui se passe lorsque on a une source lumineuse qui est ici à gauche. Vous avez un écran, ici, qui laisse passer juste un trou, et de l'autre côté, vous mettez un écran, qu'est-ce que vous voyez? Une tache lumineuse. Ça, c'est simple. Vous avez fait l'ombre de votre... avec une source ponctuelle, vous avez fait l'ombre d'un trou, et vous avez une tache lumineuse sur l'écran qui est comme ça. Ça, jusque-là, rien de bien extraordinaire. Mais, si vous commencez à faire diminuer de plus en plus la taille du trou, vous commencez à avoir une surprise, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est plus une surprise. Au début, vous voyez votre image qui devient plus petite, c'est ce qui est là-bas, mais au bout d'un moment, vous voyez quelque chose qui devient un flou autour, et si vous avez un tout petit trou, vous avez un gros machin bien flou, un beau halo qui s'appelle une tache de diffraction. C'est-à-dire que, à vouloir rendre le plus petit, le plus serré possible le faisceau lumineux, vous vous heurtez à une contradiction qui est que la lumière, en réalité, elle est passée par le trou, mais elle va plus tout droit et elle va dans tous les sens. Ce résultat a été un très beau succès de Fresnel, qui avait montré ça le premier, et qui avait, à ce moment-là, compris que c'était lié à la nature ondulatoire de la lumière. Vous envoyez une onde par un petit trou, ce qui sort, ce n'est pas un faisceau de particules, c'est une onde qui a toutes les directions. Ce phénomène est bien connu, même si on n'a pas forcément fait attention à ça, il est bien connu en acoustique. Vous avez un petit trou dans une cloison, vous entendez tout ce qui se passe dans les pièces à côté. Et même si vous n'êtes pas exactement en face du trou, vous entendez bien ce qui se passe. C'est parce que l'acoustique, c'est des ondes aussi, des ondes acoustiques. Et donc, ça, quand vous avez un trou dans une cloison, vous pouvez entendre un peu partout dans la pièce à côté ce qui s'est passé. Parce que les ondes, elles ne passent pas que à travers le trou, juste en face. Elles sont diffractées dans tous les sens. Pour la lumière, c'est pareil, mais c'est moins facile à voir. Il a fallu beaucoup plus de temps. C'est moins facile à voir parce que les longueurs d'onde ne sont pas les mêmes. En réalité, vous commencez à voir ce phénomène lorsque la taille du trou est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière. De l'ordre de grandeur. Ça peut être 10 fois plus, mais enfin, il ne faut pas que ce soit 1000 fois plus. Sinon, on ne s'en aperçoit pas. Voilà. Eh bien, pour les électrons ou pour les particules matérielles quantiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous essayez de savoir où il est, dans quelle direction il va, alors où il est, vous ne savez plus dans quelle direction il va. Voilà. Vous essayez de le localiser quelque part, du coup, il vous échappe du point de vue vitesse. Sa vitesse peut être dans n'importe quel sens. Et ça, c'est un résultat qui est très surprenant, si vous voulez, par rapport à ce qu'on sait de la matière. Vous avez un objet matériel classique, vous savez s'il va vite et vous savez où il est. Vous avez une voiture qui passe, vous pouvez la suivre et vous pouvez mesurer sa vitesse. Les deux choses ne sont pas du tout contradictoires pour des objets dont on a l'habitude. Ils n'ont pas l'air contradictoires. Pour un électron qui est tout petit, eh bien, c'est contradictoire. Si vous voulez savoir où il est, vous ne pouvez pas savoir à quelle vitesse il va. Tout à l'heure, je vous disais, vous avez un électron qui est autour de l'atome. Il est quelque part autour de l'atome, du noyau d'hydrogène. Je ne vous dis pas qu'il tourne. Je ne vous dis pas qu'il tourne parce que ça n'a pas de sens. Vous ne savez pas où il est. Vous ne pouvez pas... Si vous... Pourquoi ça veut faire rien ? Non, ça ne tourne pas. Il est quelque part, il ne tourne pas. Il peut arriver qu'il tourne, mais ce n'est pas toujours. Et donc, là, on est dans, si vous voulez, c'est cette situation des états qui est une des contradictions apparentes de la mécanique, c'est que vous ne pouvez pas savoir, a priori, dans quelle direction va votre électron. Mais vous pouvez essayer de le déterminer. Vous allez me dire, mais on peut pourtant essayer de faire la mesure, on va bien le trouver. Ah, mais voilà ! Ah, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ça c'est une digression, ben, je vous le dis quand même. Ah bon, dans la diffraction, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le phénomène de diffraction, c'est un des phénomènes qui est le plus limitatif, c'est un des phénomènes limitatifs, pardon, de la qualité des instruments d'optique. C'est lui qui est limitatif en microscopie, pour les télescopes aussi, c'est la diffraction qui au total limite les possibilités des instruments. Et c'est lié à la longueur d'onde de la lumière. Donc si vous voulez avoir un microscope plus performant, vous allez commencer par le faire de la microscopie dans l'ultraviolet, parce que les longueurs d'onde sont plus petites et vous aurez un microscope plus performant. Mais si vous voulez avoir le microscope le plus performant, prenez les longueurs d'onde les plus petites, c'est celle des électrons. On l'a vu tout à l'heure. Donc les microscopes électroniques sont beaucoup plus performants que les microscopes optiques. C'est la raison est là.
Parce qu'il y a moins de diffraction.
La diffraction...
La diffraction est moins grande.
Disons, la diffraction est de même ordre, de même nature, mais elle se passe pour des longueurs beaucoup plus petites. Donc on permet d'accéder à des choses beaucoup plus petites, avant d'être limité par la diffraction. Tenez. Certes, il y a d'autres limitations, vous voulez dire, mais il n'y a pas que pour la biologie qu'on peut faire de la microscopie électronique. Il n'y a pas que des cellules qu'on peut étudier en microscopie électronique. On peut étudier n'importe quoi. ça n'a aucun intérêt si on est biologiste, mais si on est physicien, on peut s'intéresser à étudier des macles cristallines avec un microscope électronique. Je veux dire, il y a d'autres objets qu'on peut qui peuvent intéresser d'autres personnes. Oui, les originaux, c'est ceux qui ne sont pas biologistes, c'est ça que vous voulez dire? Bon, donc après cette digression, je reviens sur les particules. L'idée importante, c'est que si vous avez une particule dont vous ne pouvez pas dire dans quelle direction elle va, même parce que vous avez essayé de savoir où elle est, ou à l'inverse, dont vous ne savez pas où elle est parce que vous avez déterminé sa vitesse, ce n'est pas du tout le résultat de l'ignorance du physicien ou de son incompétence. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que nous sommes ignorants, c'est que c'est sa propriété de la matière d'être comme ça. Il y a eu toute une controverse pour savoir s'il y avait des variables qui nous sont cachées, si vous voulez, les variables cachées. Et nous pouvons dire maintenant, depuis les expériences de ASP en France, que ce n'est pas du tout un problème de variables cachées, c'est bien une propriété de la matière de dire qu'elle est comme ça. Ce n'est pas nous qui l'ignorons comment elle est comme ça. La grosse découverte de Heisenberg à ce sujet, c'est qu'il a établi de façon très précise les relations entre ce qu'on pouvait savoir de mieux, comment on pouvait déterminer au mieux, par exemple, la position et la vitesse d'une particule, et comment sont corrélées ce qui nous restera comme incertitude sur l'un ou sur l'autre, ou sur les deux à la fois, suivant comment on s'y prend. Et ces incertitudes sont tout à fait importantes pour des particules petites comme des électrons ou des particules quantiques. Elles sont totalement négligeables pour des systèmes gros. C'est-à-dire que la mécanique quantique, de ce point de vue, la mécanique quantique ne concerne vraiment que des objets microscopiques, si vous voulez. Elle ne concerne pas les objets macroscopiques. Il est vrai qu'une voiture qui passe, on peut déterminer très bien sa position et sa vitesse. La mécanique quantique ne dit pas le contraire. Elle dit, mais ça c'est tellement gros que oui, vous pouvez. Mais quand vous prenez un électron, c'est quand même beaucoup plus petit. Là, vous ne pouvez pas. Et donc, je disais, une particule, elle a différentes possibilités d'être comme ci, d'être comme ça. Quand vous faites la mesure, vous en trouvez une valeur. Vous faites la mesure de l'énergie, vous en trouvez une. Vous faites la mesure de la quantité de mouvement, de l'impulsion, vous trouvez une valeur. C'était une des valeurs possibles. Il y avait une probabilité d'avoir telle ou telle valeur. Vous en avez trouvé une. Vous auriez pu en trouver une autre. Qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez trouvé cette valeur plutôt qu'une autre? C'est le hasard. C'est le hasard quantique. Mais, une fois que vous avez fait la mesure, la particule est là, la valeur que vous avez déterminée. C'est vous qui lui avez donné par hasard. Sinon, elle ne change plus, puisque vous l'avez donnée. Mais elle n'est plus dans le même état, vous avez mesuré dessus. Voilà. Elle n'est plus dans l'état où elle était avant. Vous avez quelque chose qui se passe, vous avez fait un système. Vous faites une mesure dessus, ah, vous l'avez changé. Vous lui avez donné la valeur que vous avez trouvée dans la mesure. Il n'est plus comme avant, il est comme vous l'avez mesuré, et non pas comme vous l'avez créé au départ. C'est ça l'idée, si vous voulez. C'est que faire une mesure sur un objet, c'est le modifier. Vous ne pouvez pas faire une mesure sur un objet quantique sans le modifier et lui donner une valeur que par hasard vous avez trouvée.
On modifie sa valeur, mais pas sa structure.
Pas sa structure, si vous voulez. Mais ça ne fait rien, vous avez modifié l'objet. Vous avez modifié les propriétés de l'objet, pas sa nature, si ça veut dire. Ah non, non, non. Encore que... Mais ça dépend de ce qu'on fait. Si on refait la mesure, si on refait la mesure de la même chose, ah non, on retrouve pareil. Mais si on fait la mesure d'autre chose, oui.
Non, je parle de la même mesure, tu fais une contre-mesure.
On retrouve la même chose. Si on fait deux fois la même mesure, on retrouve la même chose. Ah oui, exactement la même chose même. Puisque au départ, on avait une particule, par exemple, mettons si on veuille s'intéresser à un problème d'énergie. On a une particule qu'on a créée dans un état, elle peut avoir une ou l'autre des énergies qui sont là. C'est une situation assez fréquente. Elle peut avoir deux énergies possibles. Je ne sais pas laquelle est là. Je mesure, clac, je trouve cette énergie. À partir de ce moment-là, j'ai changé le système. Il a l'énergie 1. lui remesure derrière sur la même particule, il trouve aussi l'énergie 1. Bien sûr, mais non. Parce que moi, je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre comment ça marche. J'ai mis longtemps à trouver cet exemple. Alors, j'en suis pas mécontent.
Mais c'est du hasard.
Tu vas voir. Je ne l'ai pas trouvé par hasard. Je l'ai trouvé en cherchant. Imaginez que vous vouliez déterminer quel est le futur secrétaire d'une association. Et que vous avez toute une foule de gens qui pourraient s'intéresser à ça aussi, et qui sont des votants pour déterminer qui va... Alors vous faites un sondage, vous trouvez 50-50, à peu près. Vous refaites un autre sondage, un peu plus, vous trouvez 50-50. Voilà, le candidat A et le candidat B sont aussi probables l'un que l'autre. Maintenant, je fais un scrutin. Voilà, les résultats sont dans l'urne. Les bulletins sont dans l'urne. Je secoue l'urne. Qui est le... 50-50. Maintenant, je dépouille le scrutin. 3827, 3828. C'est lui. C'est lui qui est désigné. Il a une voix de plus que l'autre. C'est lui, c'est fini. La mesure a dit quel était... C'est par hasard. Hein. C'est absolument par hasard qu'il est arrivé à ce résultat. C'était très peu probable que ce soit lui, ou enfin c'était équiprobable que ce soit l'un ou l'autre, mais à partir du moment où on a fait la mesure, c'est l'autre.
D'accord. J'ai bien ton exemple.
Voilà mon exemple.
Si vous
vous
rappelez, c'est pas forcément ce qu'il a ressorti.
Ah, attention. Si on... Pas du tout. Non. Si on refait la mesure, c'est-à-dire si on reprend les bulletins et qu'on les recompte, si c'est ça, oui. Mais autrement...
Oui, d'accord, c'est pas tout le système qui revient en cause, c'est uniquement une fois que vous avez le résultat...
C'est le résultat.
Est acquis, donc,
le résultat est acquis, le résultat est acquis, le résultat ne change plus. Voilà, voilà. C'est ça l'idée.
D'accord.
Nous sommes passés d'un système qui était un système probabiliste, où il y avait une probabilité, on fait une mesure, le système n'est plus probabiliste.
J'ai une question. Si on réunit exactement toutes les mêmes conditions que celles lors du premier vote, exactement toutes les mêmes conditions.
Les conditions de départ.
On va retrouver exactement la même chose. Ça veut dire qu'on peut recommencer l'expérience après ?
Non, on recommence l'expérience, c'est-à-dire qu'on reprend... Qu'est-ce que tu appelles ?
On
repart à zéro, alors.
On repart à zéro, exactement la même, les mêmes conditions, exactement.
Oui.
Tout est exactement pareil. On va retrouver le même résultat.
Non. On a une chance sur deux de retrouver...
D'accord, non, mais...
Oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un résultat est obtenu par hasard. Il n'y avait pas une variable cachée. Il n'y avait pas un résultat caché.
Pourquoi c'est probabiliste. C'est évident. Enfin, je suis nul. Hein, j'ai essayé de comprendre quelque chose. Mais c'est une évidence. C'est-à-dire, vous dites en quelque sorte, si je mets la tasse là, elle est là. J'ai un résultat. 2 plus 2, ça fait 4. Il se fera toujours 4, mais à condition de dire c'est de la base 10.
C'est pas ça du tout.
Non, parce que je veux dire, le résultat étant acquis.
On reviendra sur cette difficulté-là. C'est effectivement une difficulté, je suis d'accord avec vous. Mais c'est. En gros, c'est ça, mesurer, c'est agir. C'est quand on fait la mesure qu'on a déterminé la situation. Ce n'est pas avant qu'elle ait été déterminée, c'est parce qu'on a fait la mesure qu'elle est déterminée. C'est ça l'idée. Alors, voilà un autre exemple de paradoxe que je vous donne. C'est un autre paradoxe quantique. Vous envoyez, classiquement, vous envoyez un wagonnet sur une butte, comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, hop, si vous l'avez envoyé assez fort, il va monter et redescendre de l'autre côté. Si vous ne l'avez pas envoyé assez fort, il va rebondir. Mais il y a une énergie seuil, une vitesse seuil, si vous voulez, à partir de laquelle il peut monter ou redescendre. Une particule classique, ce n'est pas ça. Pour l'envoyer, elle a une chance de passer à travers, même si elle n'a pas beaucoup d'énergie. Même si elle ne va pas très vite, elle a une petite, pas très, et une petite chance de passer à travers. Ça, les probabilités quantiques. Ce résultat a des conséquences pratiques insoupçonnées. Il est le résultat qui permet la radioactivité alpha, par exemple. Il n'y aurait pas de radioactivité alpha sans effet tunnel quantique. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que voilà, la mécanique classique n'est pas un perfectionnement de la mécanique... Pardon, la mécanique quantique n'est pas que un perfectionnement de la mécanique classique. Ça introduit des concepts entièrement nouveaux et des propriétés nouvelles, qui sont celles que j'ai essayé de vous signaler. Par contre, la mécanique quantique ne s'applique pas à tout. elle s'applique, et, enfin, essentielle, elle s'applique à tout, si vous voulez, mais elle ne fait pas de choses nouvelles, elle ne dit pas de choses différentes de la mécanique classique, surtout. Elle ne dit des choses différentes de la mécanique classique que sur les objets suffisamment petits qui sont dans les ordres de grandeur des échelles dont on a parlé, des électrons, des photons, des choses comme ça. Dès qu'on prend quelque chose de grand, ça ne marche plus. Pour moi, grand, c'est par exemple une cellule, un atome, une molécule de polymère. C'est déjà grand.
La mécanique classique, c'est la mécanique rationnelle. Donc la mécanique quantique, elle n'est pas rationnelle.
Elle est quantique.
D'un certain côté, elle est contre la mécanique classique, donc elle est un peu irrationnelle.
Une probabiliste.
Oui, enfin, oui.
Attendez, le mot de mécanique rationnelle, moi je ne l'ai pas employé. La mécanique rationnelle, c'est un mot qui avait été, qui est un mot qui a été utilisé pour donner une certaine assise, une certaine valeur à la mécanique. C'était en gros raisonner sur la mécanique et non pas simplement faire expérience. C'est en ce sens qu'on l'a appelé rationnelle. La mécanique quantique est tout aussi rationnelle que l'autre, sauf qu'elle n'a pas les mêmes objets tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, le dernier prix Nobel de physique a été attribué à deux physiciens pour des problèmes de comptage de photons. En gros, ils ont réussi à isoler des photons, à les compter. Ça, c'est le dernier prix Nobel. Le premier, c'était, vous vous rappelez, c'était Planck. Le dernier en mécanique quantique, c'est celui-là. Voilà les succès de la mécanique quantique. J'essaye de vous donner en quoi ça sert. La chimie, c'est vraiment le monde du quantique, c'est la chimie. Les liaisons chimiques, on n'a à peu près rien compris à la plupart des liaisons chimiques tant qu'on n'a pas fait de mécanique quantique. On comprend à peu près la liaison dite électrovalente, pourquoi des ions positifs et négatifs s'attirent et forment des cristaux, ça on comprend à peu près, on n'a pas besoin de mécanique quantique. Dès qu'on parle de ce qu'on appelle la liaison covalente est une notion quantique. La valence des atomes, c'est une notion quasiment purement quantique. Voilà, toutes sortes de succès, de choses qu'on ne saurait pas faire si on n'avait pas la mécanique quantique. Voilà ce qui ne relève pas dans la mécanique quantique. Par contre, il y a des choses qui ne relèvent pas dans la mécanique quantique. Les chats. Les chats ne relèvent pas dans la mécanique quantique. Non plus, ils ne relèvent pas dans la mécanique quantique. C'est un objet classique, ce n'est pas un objet quantique. Les physiciens qui font l'expérience ne parlent pas de chats. Un des gros problèmes de la physique actuelle, c'est ça, c'est de ne pas savoir concilier la mécanique quantique et la relativité généralisée.
Ça fait 100 ans que ça dure, quasiment.
À peu près 100 ans, oui. Mais oui, c'est une affaire qui est mal barrée, je vous le dis. J'ai essayé de prendre plusieurs sites de mécanique quantique, de médecine, quantique, et de voir qu'est-ce qu'ils disaient. Alors, je ne vais pas vous infliger tous, j'ai relevé un certain nombre de phrases comme ça que j'ai prises sur des sites. Là, je vous ai donné le site de médecine quantique. Ça, c'est bien, c'est joli, hein. On peut définir la mécanique, c'est trop beau, comme une médecine holistique centrée sur la compréhension des différents mécanismes biophysiques régissant la vie, plus particulièrement sur l'action des ondes électromagnétiques. C'est beau. Ça ne dit pas encore comment ça marche, mais c'est déjà une médecine holistique centrée sur la compréhension des mécanismes biophysiques. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus, hein? Vous êtes pour aussi.
Le mot compréhension, c'est une trouvaille.
N'est-ce pas? C'est toujours la suite de ce message. Hein. La seule force... En effet, c'était pour expliquer l'action des ondes électromagnétiques. Pourquoi l'action des ondes électromagnétiques? Alors, il explique. La seule force... J'ai souligné ce membre de ces quelques phrases-là, qui sont très bien écrites. C'est de la bonne physique. C'est vrai, tout ça est vrai. La force nucléaire explique les processus radioactifs. Pas seulement, puisqu'il y a d'autres mécanismes pour les processus radioactifs. Je vous ai parlé de l'effet tunnel quantique il y a un instant, c'est vrai aussi. Mais par contre, c'est vrai que la force nucléaire faible explique ça, la force nucléaire forte, la structure énergétique, la gravitation, c'est pour la mécanique céleste, et la force électromagnétique, essentiellement, concerne la matière. Voilà.
Ça, c'est les quatre forces qu'on trouve partout.
Voilà, donc ce qu'il dit là est tout à fait vrai. Sûr, ouais. Et la suite, évidemment, ça, on ne voit pas le rapport tout de suite. Il n'y en a pas, d'ailleurs. On peut également parler de médecine informatique ou de médecine énergétique. Transparaît à travers ce terme la notion de message de régulation véhiculé à travers tout l'organisme par des ondes électromagnétiques s'étalonnant sur tout le spectre de fréquence. Alors ça, ça veut strictement rien dire pour un physicien. Les ondes électromagnétiques s'étalonnant sur tout le spectre de fréquence, ça veut rien dire.
Alors, il faut insister là-dessus, mettre d'abord des gros guillemets et puis de l'italique, hein, pour que personne ne lise ça comme étant votre discours. Mais il faut insister sur le fait que c'est vraiment le processus utilisé dans tous les cas de dérive sectaire où on mélange du vrai que le bon sens ou un certain nombre de personnes peuvent connaître et que ces personnes-là vont retrouver ce vrai dans des articles ou des oui. sites parfaitement... autorisé et compétent, et puis insidieusement, on a le charabia et les croyances, et c'est pour ce phénomène-là que se fait l'emprise sur les gens, que se fait l'adhésion à la croyance, parce qu'on a quelque chose qui est vrai, mais qui finalement ne justifie pas la suite, et puis on fait avaler la suite, et une fois qu'on a bien fait avaler la suite et que les gens l'ont digéré, ils sont pris.
Merci.
Absolument. Et j'ai insisté tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé de l'atome d'hydrogène, sur le fait qu'il y a bien une fonction d'onde là-dedans, mais il n'y a pas d'onde radio rayonnée. Précisément, ce qui est le problème de la mécanique classique, c'est qu'elle supposait qu'il y avait un rayonnement qui sortait. Il n'y en a pas. Voilà. Un autre site, donc, me disait, la théorie quantique s'appuie sur l'utilisation des quantas d'énergie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des quantas d'énergie. Hein. D'infimes doses de radiation électromagnétique destinées à la prévention, à la régénération de la santé des individus. Ça, par contre, à partir de destinées, on est exactement dans le mécanisme que vous disiez, c'est-à-dire d'infimes doses, ça, c'est des quantas de lumière. Ils ne sont pas du tout destinés à la prévention de quoi que ce soit. Ils sont ce qu'elles sont. La physique n'est pas destinée à la santé des gens.
On te parle de thérapie quantique. C'est même ça qui est contestable.
La suite toujours de ce site, hein, qui est le site bioresonance.net, je l'ai pris parce qu'il y avait une chose extraordinaire là-dedans qu'on n'imagine pas. Voilà, les émissions... Voilà, les types d'ondes biologiquement et écologiquement pures. J'ai trouvé ça... Vous voyez, des ondes électromagnétiques qui sont biologiquement pures, c'est... J'ai trouvé ça merveilleux. Voilà les mélanges que l'on trouve. En fait, il n'y a pas un mot de mécanique quantique Je n'ai pas lu un mot véritable de mécanique quantique dans les sites de médecine quantique. Peut-être qu'il y en a ailleurs que je n'ai pas lu tous les sites, mais j'ai fait une dizaine, je n'ai rien trouvé.
Aucun sens pour les physiciens.
Oui, le concept d'onde biologiquement pure, ça n'a aucun sens pour un physicien, ça.
Voilà.
Ça, je prends celui-là.
Et c'est extraordinaire parce qu'ils se servent d'une science, finalement, de données scientifiques.
Non, d'un vocabulaire.
De mots, voilà. Même pas. Ouais, il y a des mots.
L'existence, pour un physicien, d'une onde, c'est quelque chose qui doit pouvoir se vérifier. L'existence d'une onde électromagnétique, d'un photon, d'un objet, c'est quelque chose qui se vérifie. Personne n'a jamais pu vérifier ou montrer qu'il existait des rayonnements émis par les cellules qui sont reçus par d'autres. Ça, personne n'a jamais pu le montrer. Qu'il y avait une communication par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques entre une cellule et une autre. Personne n'a jamais pu le montrer. Donc il ne s'agit pas simplement...
Dans le cas d'une dérive, on peut dire, étant donné effectivement que ce n'est pas son domaine d'application, par exemple, moi je peux dire que, voilà...
Excusez-moi. Non. Il ne s'agit pas de savoir si des choses ont un sens différent ou s'adressent à un champ différent du point de vue scientifique. Il s'agit de savoir si on parle de choses qui existent ou de choses qui n'existent pas. Je dis que pour un scientifique, qu'il soit biologiste, qu'il soit médecin, qu'il soit physicien ou chimiste, lorsqu'il parle de quelque chose, c'est quelque chose dont il peut montrer l'existence. S'il ne peut pas en montrer l'existence, il n'a pas le droit d'en parler comme d'un objet scientifique. Voilà. Il peut en parler comme d'une hypothèse qu'il fait, éventuellement, donc qu'il cherche à vérifier, qu'il cherche à montrer, mais il ne peut pas en parler comme d'un objet scientifique existant. Lorsqu'on parle d'un photon, on parle d'un objet qu'on peut caractériser. Lorsqu'on parle d'une cellule, lorsqu'on parle de propriétés chimiques, lorsqu'on parle, je ne sais pas moi, d'une maladie, c'est quelque chose qui est caractérisable. Lorsqu'on parle d'une communication entre cellules, c'est quelque chose qui n'est pas caractérisé parce que personne ne l'a jamais vu. Donc on ne parle pas de...
Ça existe, mais ça ne prend pas cette forme-là.
C'est une communication par onde électromagnétique.
C'est une communication chimique.
Une communication chimique, bien sûr. Mais par onde électromagnétique, non. Personne n'a jamais vu une onde électromagnétique partir d'une cellule pour être reçue et détectée par une autre.
Sauf si ces cellules sont excitées, non, d'une manière ou d'une autre. On parle de l'état stable, là.
La transmission de l'influx nerveux...
Oui.
La transmission de l'influx nerveux... Elle applique un courant électrique à la surface de la cellule, mais la transmission de cellule à cellule est une transmission chimique.
Chimique. Oui, d'accord. Hein, et pas du tout par onde.
Il n'y a pas d'onde. L'électricité qui existe, c'est juste un potentiel qui existe à la surface de la cellule, et la transmission de cellule à cellule se fait par voie chimique. Absolument pas par voie énergétique.
Les électrodes, quand je dis des électrodes pour soigner X maladie au niveau du cerveau, donc c'est uniquement un influx électrique qui va entraîner un processus chimique.
Tout à fait. Oui, mais l'électricité qu'on envoie dans les...
Dans les électrodes,
celle-là, elle a une source extérieure.
Oui, tout à fait.
Donc celle-là, on sait bien d'où elle sort, mais elle ne sort pas d'une cellule.
Oui, d'accord. Je pense que c'était la conséquence.
Elle induit
des processus chimiques.
Des changements,
des modifications chimiques.
Exactement comme on peut faire de l'électrolyse avec du courant électrique.
Monsieur derrière, veut dire quelque chose.
Vous dites que la ZAP, c'est rationnel. Le hasard, justement, par définition, il n'est pas défini, il n'est pas rationnel, il est vaseux, le hasard.
Il est hasardeux. Ceux qui seraient intéressés par le problème du hasard quantique, je leur signale cet excellent ouvrage qui est paru cette année. L'impensable hasard. Écrit par Nicolas Gisine. C'est un Suisse, Nicolas Gisine. Il a écrit ce livre dont je ne peux pas dire que la lecture est facile.
Qu'est-ce que c'est le sous-titre ?
Non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques.
Ah oui. Téléportation.
Téléportation, oui.
Oui, parce que ça, tu l'as pas trouvé.
La téléportation quantique consiste à transférer d'un objet à un autre la forme et non pas la matière. C'est ce que l'on transporte, c'est l'état, si vous voulez. Ce n'est pas la matière.
Est-ce qu'il existe avant un jour une informatique quantique ?
C'est assez vraisemblable qu'il existera un jour une informatique quantique. Elle n'est pas analogue à l'informatique que nous connaissons actuellement. L'informatique quantique, pour l'idée qu'on s'en fait à l'heure actuelle, parce que c'est quand même assez hypothétique, risque de produire non pas des supercalculateurs, mais des machines dédiées, c'est-à-dire des objets pouvant résoudre tel ou tel type de problème de manière beaucoup plus efficace que les ordinateurs actuels, mais pas programmables de la même façon. Ce sera des machines déjà programmées pour résoudre certains types de problèmes. Pour l'idée qu'on s'en fait à l'heure actuelle. Tout simplement parce que le calculateur quantique suppose ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques, je reviendrai là-dessus dans un instant, qui n'ont pas de durée de vie très grande à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on arrive difficilement à la microseconde, mais bon, on peut espérer arriver à la milliseconde, mais... Ça veut dire qu'il faut qu'en une milliseconde, le problème soit terminé. Vraisemblablement, ce champ d'application sera des choses entièrement dédiées. C'est-à-dire que ce genre de calculateur, s'il existe, sera fait pour résoudre tel ou tel type de situation au moment où elle arrive, quoi. Mais en millième de seconde. Alors, quelle est la supériorité des bits quantiques par rapport aux bits classiques ? C'est parce que vous pouvez avoir un système quantique dans plusieurs états. Voilà, il n'est pas dans un ou l'autre état, il est dans tous les états à la fois, et c'est quand vous finissez de faire la mesure qu'il choisit son état.
Bon, une question très générale, peut-être une remarque plus qu'une question, mais c'est grave. En ce sens que, on essaie de nous faire comprendre comprends qu'à partir des principes et des expériences qui ont été faites en mécanique quantique, on ne peut pas parler de médecine quantique, etc. On l'a bien compris. Bon. Maintenant, la mécanique quantique elle-même, je ne suis pas sûr du tout que les gens du commun, ou tous ceux qui sont ici, la plupart d'entre eux en tout cas, aient pu admettre, parce que tout le monde a le sourire aux lèvres, aient pu admettre et comprendre ces principes que tu as exposés. Parce que si je pense que c'est moins croyable encore que l'existence d'un ange, ce que tu nous as dit là. Pour le comprendre, on a l'impression que c'est une croyance. Et c'est ça qui est grave. C'est. Non, moi. Hein, c'est ça qui est grave. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de préciser que ce n'est pas une croyance. Bien sûr qu'il y a des expériences qui le montrent, etc. Ça, c'est le critère. C'est le critère de véracité. Mais cela mis à part, je ne pense pas que la plupart d'entre nous aient pu comprendre par la raison, par le mécanisme de leur cerveau, de leur intelligence. Je ne crois pas qu'ils aient pu comprendre que c'était autre chose que ce qui leur paraît être une croyance.
Ah oui.
Alors donc, oui, malgré ton exposé.
Je comprends pas, absolument pas, non, absolument pas.
Non, mais donc c'est...
laissez parler les gens. J'essaie de m'adresser aux gens ici. Est-ce que vous avez l'impression que je me suis adressé vraiment à votre croyance?
J'ai l'impression que j'avais un cours de physique pour les gens qui n'ont jamais fait de physique. Je n'ai pas tout saisi à 100%, mais je pense en avoir saisi 75%. Je n'ai jamais cru. Enfin, j'ai eu des cours de physique au lycée, je n'ai jamais cru que j'assistais.
Moi, ça qui m'échine, c'est les mots hasard.
Laissez finir.
Ah oui.
Tout le reste, je crois avoir compris, mais hasard.
C'est même à ce point, voyez, le goût du hasard, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Je suis d'accord. À tel point que, par exemple, Einstein n'y a jamais cru à ce hasard. Il ne l'a jamais admis, précisément. Et le problème a fait l'objet d'une controverse qui a démarré avec, on peut dire, Einstein et Heisenberg, entre eux, dans les années 1910. Et le problème n'a été résolu qu'en 1995, je crois, 90-95 par là, c'est-à-dire 80 ans après, par le double jeu, d'une part, d'un physicien relativement inconnu, Bell, en Angleterre, qui a montré qu'il y avait... Il a montré qu'il y avait des expériences qui pourraient, il n'a pas pu faire l'expérience, mais il a montré qu'une expérience permettrait de trancher. Il a décrit une expérience théorique permettant de trancher. Et par la suite, quelqu'un dont je déplore qu'il n'ait pas eu le prix Nobel, qui est Alain Aspect, qui a écrit la préface de ce livre ici, a passé... Mais je n'en fais pas cadeau. Hein.
Non,
a passé... 5 ou 6 années à l'école normale supérieure pour monter l'expérience préconisée par Bell, faire l'affaire et vérifier que Heisenberg avait raison et Einstein avait tort.
Sur quel point? J'ai pas compris là.
Sur le point du hasard.
Question du hasard. D'accord.
Question du hasard. Voilà. Est-ce que c'est bien par hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose qui détermine le résultat?
C'est bien par hasard.
Et c'est bien par hasard. Voilà. Et alors, c'est à tel point qu'à l'heure actuelle, on se sert de ce hasard, il est déjà utilisé, ce hasard, pour générer ce qu'on appelle des nombres au hasard. Parce que, peut-être le savez-vous, il existe des tas de problèmes dans lesquels on a besoin de nombres pris au hasard. Et on a des algorithmes de calcul qui fabriquent des nombres dits pseudo-aléatoires, parce qu'ils ne sont pas vraiment au cas, par hasard, puisqu'ils sont fabriqués par un programme. Et donc, actuellement, on fabrique... Pardon ? Et ceux-là ne sont pas vrais, ils sont pseudo-aléatoires. Et on fabrique des nombres au hasard par des expériences quantiques. On fait des mesures sur des photons et on a effectivement des séries aléatoires, complètement aléatoires de 0 et de 1.
Bon, donc je reviens à ma remarque parce que c'est on y est en plein. En fait, il a fallu recourir à la mécanique quantique et aux expériences de la mécanique quantique qui donnent des résultats vérifiables continuellement pour arriver à des nombres effectivement aléatoires, mais donc ça ne s'applique qu'à un domaine qui nous est pas accessible, nous qui sommes dans le des êtres macroscopiques, qui simplement nous devons arriver à y croire parce que des expériences basées sur la mécanique quantique arrivent à une répétition de mêmes résultats dans le domaine d'application ou de viabilité, de validité de la mécanique quantique, c'est-à-dire la microscopique. Oui. Donc, il y a un problème pour tout le monde, ici, qui prétend tout comprendre, que nous n'avons pas accès à cela, mais nous y avons accès uniquement parce que nous acceptons qu'en utilisant des principes qui ont été énoncés, on fait des expériences qui se vérifient comme étant véritables. Je crois que c'est ça.
Je peux faire une remarque.
Donc, oui, la croyance est nécessaire quelque part.
Je peux faire une remarque, parce que là, tu poses un problème, c'est celui du raisonnement scientifique et de l'acceptation des résultats scientifiques par les autres collègues. Il est évident qu'aucun scientifique ne peut maîtriser la totalité de la science. Ça n'est pas une croyance, c'est une confiance, je dirais, dans les résultats des autres. Et ça n'est pas la même chose. Parce que ces résultats peuvent être contestés par d'autres expériences que moi, en tant que biologiste, par exemple, je ne peux pas faire des expériences de physique. Les expériences d'Alain Aspect, elles me sont très, très éloignées. Mais, je veux dire, les travaux des physiciens et des collègues d'Aspect font que je peux avoir confiance dans ces résultats d'Alain Aspect et dire qu'ils représentent l'état de la réalité scientifique du moment. Comme dans la biologie, moi je suis biologiste moléculaire, je ne suis pas neurobiologiste. Quand on me présente des résultats neurobiologiques, je suis bien obligé d'avoir confiance dans les résultats des neurobiologistes, parce qu'eux ont un degré de compétence que je n'ai pas. Ça n'est pas de la croyance, c'est de la confiance. C'est de la confiance dans des résultats qui peuvent toujours être contestés.
La différence, bon, je pense qu'il a raison, il y a une différence quand même, c'est que le domaine de la mécanique quantique est hors de l'intuition. C'est ça qui rend les choses difficiles.
Oui, donc j'entends la nuance que tu apportes, et elle est très importante.
Elle est très importante.
Mais si on se place dans le domaine sectaire qui nous intéresse, on voit que le domaine sectaire va faire en sorte que la confiance soit l'élément sur lequel on va jouer pour faire passer, je vous laisse la parole dans un instant, pour faire passer des choses, et que, en plus de ce que tu dis, ce n'est pas dans le domaine de notre intuition, parce que nous n'avons pas ce genre d'expérience en tant qu'être macroscopique.
Absolument.
Donc, il y a un vrai problème qui fait qu'il y a une... Il n'y a pas égalité, il n'y a pas identité, il y a similitude avec le domaine sectaire. Tu comprends ? Parce que ce n'est pas intuitif. Et qu'on dit, vous me faites confiance. Vous croyez en Dieu, vous me faites confiance. Dieu existe. C'est la même chose. Non mais...
C'est bien la question centrale pour laquelle on est là aujourd'hui et pour laquelle il y a ce thème.
Mais voilà, c'est ça.
Alors, le problème...
Voilà, ça ce sont les réalisations.
Ça c'est les réalisations à partir de la mécanique quantique. Ça existe. Voilà.
Je suis d'accord, mais tu vois le problème, comment on peut faire passer la médecine quantique.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, on avait déjà dit ça un peu dans la réunion de la dernière fois, qu'on est dans la bagarre, quelque part, pour l'opinion publique ou pour faire passer une vérité scientifique qui sera plus productive ou moins dangereuse que d'autres théories que la partie adverse essaierait de faire passer hein, dans le même secteur. Donc, ça veut dire que, quelque part, la science, il faut aussi qu'elle s'explique et qu'elle rentre dans une contradiction et qu'elle essaye de faire taire très vite ce genre d'usurpation. Parce que l'opinion publique n'aura jamais, nous les premiers, les moyens de tout comprendre, c'est évident.
Oui, mais
et il y a une question de validation sociale des connaissances.
Ah oui.
Et une question de protection des individus qui seraient prêts à s'engager dans
que les gens acquièrent une culture scientifique. Ce qui n'est pas le cas.
Il y a un autre aspect. Voilà, moi je vous ai remis cette page parce que. Je ne veux pas dire que ce sont des preuves, mais quand même, la mécanique quantique, elle a produit des effets visibles. C'est ça que je veux dire.
vérifiables. Je veux dire, ceux qui ont un GPS, eh bien, ma foi, c'est parce qu'on a su faire des horloges atomiques qu'on peut faire des GPS. Hein. C'est pas parce que simplement on sait faire de la mécanique de l'électronique. C'est parce qu'il y a des horloges atomiques qui marchent pas n'importe comment. Hein. Je prends le GPS parce que c'est un objet dont tout le monde, non pas tout le monde, mais beaucoup de gens l'utilisent. Et plein d'autres choses comme ça.
Et toujours en recherche.
Mais oui.
Dire que les scientifiques sont toujours en train de trouver. Il y a 100, tu aurais dit ça il y a 100 ans, tu serais fait sortir par la porte. Enfin, tout ce qui vient d'être dit. Hein, il est fou celui-là. Enfin, on aurait dit ça, on aurait dit à Michel, mais il est fou. Les sectaires, au contraire, ils ne changent pas. Ils sont toujours sur la même idée. Ils sont toujours sur le truc, ils n'évoluent pas. Hein, c'est toujours le même truc. Ça reste et ça reste. Ça ne change pas. La démarche scientifique change tout le temps. Elle se remet tout le temps en question. Elle avance. La mécanique classique n'est pas remise en question, mais. C'est vraiment.
C'est à propos de la croyance, donc une croyance fixe au lieu d'une.
Je te réponds sur un autre plan. Voilà. Et pareil, je voulais dire aussi la confiance.
Dominique, moi je voulais dire un mot aussi après.
Je voulais intervenir juste une chose. Dans la réception par le public des données scientifiques, il y a un acteur qu'on néglige un petit peu trop, mais ce sont les médias. Et les médias ont un rôle très important dans la manière dont les résultats scientifiques sont présentés et reçus par le grand public et qui vont conditionner la confiance que pourrait avoir le public dans les résultats scientifiques et dans la validité de la médecine, en particulier de la médecine classique. Parce qu'il faut quand même aussi dire une chose, c'est que la médecine quantique, elle s'inscrit en invalidation de la médecine par l'épreuve. Hein. C'est ça le point important. C'est qu'on veut dire, on veut affirmer, et c'est vrai aussi pour d'autres. Philippe nous a passé un article dans Science et Avenir qui est assez inquiétant sur l'influence des sectes dans les hôpitaux. Il y a partout, dans tous les domaines qui touchent à la médecine, l'intervention de gens qui veulent détourner je ne sais plus exactement comment je voulais exprimer ça, mais il y a un détournement et une récupération. Pas une récupération, il y a même
un dévoiement.
Un dévoiement et un reniement de la validité de la médecine par l'épreuve. La dénigrer, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Il y a un dénigrement de la médecine classique, sous prétexte qu'elle n'est pas toute puissante, mais elle n'est pas toute puissante, comme n'importe quelle science, elle ne résout pas tous les problèmes. Quelquefois, elle fait mal, parce qu'une médecine qui soigne, c'est aussi une médecine qui a des effets secondaires. Donc voilà, il faut aussi affirmer ça. C'est cette je ne sais pas comment. Là, je crois que je n'ai pas eu
un. Il y a Dominique, il faut dire un mot.
Mais je crois qu'il y a une importance extrême à, dans la diffusion de l'information scientifique.
Bien sûr.
Et les médias ont un rôle ici qui peut être à la fois soit positif, soit toxique. Il faut en être conscient.
Et Dominique, moi je voulais dire un mot. Françoise aussi. Martine.
Oui.
Dominique,
oui,
vas-y.
Justement, moi, je voulais savoir si quelqu'un s'était penché sur la façon dont on apprend cela à l'école, enfin, au lycée, à quelle matière, à quel niveau, à quel âge, comment, qui, est-ce que, parce que c'est quand même fondamental, ce sont ces sciences, effectivement, que l'on n'a pas l'habitude d'approcher, puisqu'on travaille plutôt au niveau scolaire sur la rationalité, sur les sciences exactes, on travaille peu sur les sciences sociales, on travaille peu sur la philosophie, on n'apprend que très tard. Donc en fait, ces sciences qui font appel à des tas de concepts, ils sont difficiles à comprendre, comme on vient de le voir. Donc je voudrais bien savoir à quel moment c'est introduit dans les programmes scolaires. Puis évidemment, je pense que ce sont des questions très importantes pour aujourd'hui le fait de la science, par exemple, pour approcher les jeunes les enseignants sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a des manuels pour jeunes qui sont conçus?
Mais la grosse difficulté qui permet aussi de comprendre, je trouve que l'exposé de Michel, pour ça, il est très utile et très précieux, parce qu'il nous permet il confirme que le problème de la médecine, de la mécanique quantique, de la physique quantique, qui est la raison pour laquelle les sectes peuvent prospérer là-dessus, c'est que justement, comme ça a été dit, ça échappe à notre intuition, ça échappe à notre expérience directe. Donc à partir de là, effectivement, on peut inventer n'importe quoi. Et c'est aussi une difficulté qui fait qu'on imagine mal, même au lycée, même dans les dernières classes, faire comprendre à des jeunes que un objet, une particule, on ne peut pas savoir à la fois où elle est, où elle va, et quelle est sa vie. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, ça.
On peut
montrer qu'une barre de fer, tu la chauffes, elle se dilate de temps. Ça va, on peut l'expérimenter. Mais là effectivement, il y a une difficulté qui est une difficulté, et c'est ce qui explique que peut se greffer là-dessus, ça peut avoir les apparences d'une croyance. Alors qu'en fait, heureusement qu'on est là pour se rappeler que la mécanique quantique, la physique quantique a permis des avancées très concrètes, très palpables, dont on mesure tous les jours les bienfaits, pour qu'on soit certain que ce n'est pas une pure croyance.
En plus, on te dit à la place de croire, on te dit de faire croire.
Je suis très pessimiste là-dessus, parce que mon expérience d'enseignant dans le supérieur, c'est que les gens qui nous arrivent du lycée, ils savent de plus en plus de choses et ils ont de moins en moins de formations scientifiques.
Oui, mais ce n'est pas uniquement scientifique, c'est ça. Non.
J'ai fait des études de philo dessin et puis ensuite j'ai arrêté 15 ans pour être mère au foyer. J'ai repris des études très tard en psycho, en première année. Et c'est pour ça que quand Yves dit « oui, c'est de la croyance », je me dis « pourquoi j'ai confiance en Michel, justement ?» Et je me disais « c'est parce que j'ai fait des études scientifiques. » Attends, ne prends pas de pied, je n'ai pas fini de parler. Moi, je ne crois pas Michel, j'ai confiance en ce qu'il dit parce que je me disais « je connais la méthode scientifique ». En première année de psycho, on a psychanalyse, on a psycho-expérimentale, psychologie sociale, psycho de l'enfant. Il y a trois disciplines qui sont scientifiques, où on apprend la méthode scientifique. Moi, sans rien connaître, quand on parlait de théorie énorme de Freud sur l'adulte, sur l'enfant, le stade, l'Œdipe, tout ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je n'y crois pas. Alors que les autres disciplines annonçaient un résultat parce qu'on avait fait des cohortes, des groupes, on faisait ça, et puis on avait trouvé ça, puis on reprenait l'idée, puis un autre chercheur avait repris la première expérience, avait rajouté un validé, et ça dans tous les domaines. Et j'ai vu la différence, où j'ai vu qu'il y a des cas où effectivement c'était une succession de faits discutés, validés par des pairs, et un autre domaine où c'était le délire de quelqu'un qui était repris sans être discuté jamais. Et j'ai fait la différence justement entre confiance, je n'allais pas refaire moi-même toutes les expériences, c'est obligé, parce que je connais le processus de la méthode scientifique. Et ce n'est pas que de l'esprit critique. Yves, je ne te convainc pas, je ne cherche pas à te convaincre, mais c'est un processus de comment on valide un savoir à un moment, et pourquoi on croirait. Je n'ai pas à croire en Michel, je m'en fous de Michel, je ne le connais pas, je ne le crois pas comme je crois en Dieu, j'ai confiance dans le fait qu'il a, j'ai confiance dans le fait qu'il m'a enseigné avec ses mots des choses qui m'ont amené par arguments différents à admettre ce qu'il me dit. J'ai aucune raison parce qu'il me dit.
Alors moi, ce qui me gêne dans ce qui a été dit, bon, je n'ai peut-être certainement pas compris non plus, mais c'est cette part du hasard, effectivement. Ce hasard dans la science, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Ça me fait penser à certaines théories de l'évolution, justement, qui consistent à mettre les mutations génétiques sur le dos du hasard, en quelque sorte. Donc ça aussi, j'ai du mal à le comprendre.
C'est vrai.
Moi, c'est une adaptation à un milieu qui change. C'est une adaptation, une faculté qu'ont certains êtres vivants à s'adapter plus ou moins facilement et alors qu'on me dit, et je lis, que c'est proprement dû au hasard. Oui, bon, certainement, j'ai du mal à concilier science et hasard. C'est quelque chose qui, pour moi, ne va pas ensemble. Et du coup, il me manque un élément de, comment dirais-je, des éléments pour pallier, pour relier les différentes choses qui auraient été dites.
Oui, alors, je réponds aussi quand même.
Moi, je ne peux pas comprendre.
C'est cette, je veux dire, cette attitude, elle est d'autant moins surprenante et critiquable que ça a été celle d'Einstein tout le long de sa vie. Je veux dire, je peux pas dire du tout que c'est une attitude irrationnelle. La seule chose, c'est que il a fallu attendre, je dis, 80 ans à peu près, pour qu'on comprenne qu'on pouvait trancher expérimentalement entre la détermination du hasard, par le hasard, ou la détermination par ce qu'on appelait les variables cachées. C'est-à-dire, parce qu'on sait, en gros, est-ce que cette incertitude que nous avons est-elle le résultat d'un hasard ou est-elle le résultat de notre ignorance ? Voilà. Ce qui revient un peu à... C'était ça l'histoire des variables cachées. Et ça, alors ça, c'est rien de simple. Je ne peux pas dire du tout que c'est une chose simple, mais effectivement, les physiciens aujourd'hui considèrent que le problème a été tranché. Voilà. Il a été tranché dans le sens du hasard.
Oui, parce que...
Je disais, on les physiciens aujourd'hui.
Les principes
éternels en mécanique quantique,
sont vérifiés par les expériences.
Oui, par l'expérience de l'aspect.
C'est la raison.
Et oui, bien sûr, il a été tranché par l'expérience de l'aspect. Pas par autrement, pas autrement.
D'accord.
C'est Edison.
C'est la réalité. Elle est comme ça. Enfin, moi, je vais juste être un peu pragmatique et dire que là, aujourd'hui, tu nous as présenté la mécanique quantique. J'ai bien compris, hein, la méthode scientifique, tout ça. Et par rapport à la zététique, tu nous as dit très clairement, en comparant avec la médecine quantique, tu as dit, mais par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu sais, ben voilà, on se méfie. Enfin, il n'y a rien il n'y a rien de quantique. Ça, c'est très important. Enfin, c'est juste quelqu'un qui nous présente. Je vais faire un petit parallèle, mais. C'est comme quelqu'un qui nous présente un sac Vuitton, qui va regarder un sac en contrefaçon, qui va dire non, ça c'est de la contrefaçon. Et je crois que dire ça et enseigner ça, par exemple, très très rapidement, parce que c'est qu'un niveau de connaissance en réalité, comment dire, par exemple, comme tu nous as dit, la mécanique quantique pour les nuls, je pense que les personnes qui ont ce genre d'infos, qui ont quand même un jugement assez libre, et assez critiques quand même, quand ils entendent des personnes qui ont justement des démarches un petit peu sectaires, et peuvent se méfier. Moi, par exemple, ça rejoignait à certaines choses, moi je ne connaissais pas, des étudiants, il y a quelqu'un qui a commencé à m'expliquer qu'il avait des appareils, qu'il avait des... de manière très, très scientifique, machin, pour soigner quoi que ce soit, ben moi, c'est mon niveau de connaissance qui m'a fait dire c'est bizarre, je ne le valide pas. Même si c'est parce que j'avais des références qui me disaient ça paraît pas scientifique, ça paraît bizarre, ça paraît du charlatanisme. Et je pense que ce que tu fais, comme tu le présentes, je pense qu'on peut, très simplement, et tu le fais, c'est présenter, on va dire, la mécanique quantique de manière simple, même si je ne vais pas l'utiliser, mais de manière assez simple, pour que quand des personnes me racontent des conneries sur la médecine ou quoi que ce soit, j'arrive à l'identifier. Après, sur juste la petite partie du hasard, le hasard en science, moi, je préfère le terme d'aléatoire, que je comprends mieux rattaché aux scientifiques, mais... Voilà, je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément de hasard, mais l'aléatoire, je le comprends mieux. Oui, mais je le comprends mieux. Je le comprends mieux, je suis moins sur ma croyance.
C'est quand même important d'avoir bien conscience qu'on ne peut pas reconstruire toute la science, chacun, nous, de notre côté. On est bien obligé, quelque part, d'un point de vue pratique, d'accepter les affirmations. Et c'est bien là qu'il y a la difficulté, c'est ce qui donne ce qui laisse la place aux charlatans, c'est qu'on est bien obligé d'accepter certains résultats qui nous sont présentés sans avoir la possibilité de les valider. Mais ce à quoi on peut faire attention, c'est la possibilité dans ces résultats d'être invalidés ou pas. Et, et je crois que c'est là qu'est la différence. Et autrement dit, dans la médecine quantique, les résultats présentés par les défenseurs de la médecine quantique, ils ne sont jamais validés. C'est ça qu'il faut clamer partout.
Oui.
Hein? Parce que sinon, on n'en viendra jamais à bout. On est obligé, quelque part, de faire confiance aux gens qui nous apportent des résultats. Parce que sinon, on ne construit pas le monde. On en est encore à l'âge de la pierre. Hein?
Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Mais alors, par rapport aux sectes et toutes ces croyances qui sont fausses, parce qu'il y a des croyances qui sont vraies et d'autres qui sont fausses, comme on vient de le dire, le problème pratique va être celui, lorsqu'on a affaire à des gens qui avancent des vérités sectaires qui ne sont pas des vérités puisque ce sont des croyances fausses, comment faire la distinction entre ce en quoi on va avoir confiance et qui vient d'expériences scientifiques répétées continuellement avec une vérification dans les faits, et ce que d'autres vont nous présenter comme étant également, d'après eux, nous présenter comme ça, comme étant quelque chose qui a été en fait vérifié dans le réel également. Donc, si le problème de la confiance se pose, oui c'est bon, hein, si le problème de la confiance se pose, comment faire la distinction entre les deux? Là, c'est la vraie question.
C'est la pratique.
En fait, il y a un seul moyen de le faire, ça va répondre aussi à la question de l'enseignement, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire que même Edison, s'il n'avait aucune des connaissances auxquelles il a fait référence, et qu'il ait eu un peu d'esprit critique quand même, il pouvait aussi s'en sortir dans la situation où il était. Et le nerf de la guerre, c'est l'esprit critique, parce que jamais on aura toujours les informations sous la main pour faire immédiatement la part des choses. Donc il faut un peu de curiosité, un peu de méfiance, un peu d'esprit critique, et de confiance par ailleurs dans certains milieux, pour aller, Internet est vraiment représentatif à ce niveau-là, chercher les bonnes informations et les bonnes croyances, et aller voir, parce que la critique, elle existe aussi sur Internet, donc on peut très vite faire la part des choses. Et pour finir, je voudrais dire qu'on insiste trop nous-mêmes pour utiliser le terme de médecine quantique, que ça n'existe pas. Hein. Eux-mêmes, ils parlent des thérapies quantiques, qui sont prudents parce que le terme de médecine, enfin, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Ce sont quelques personnes qui mettent en avant ça face à des centaines de milliers, millions de scientifiques et de médecins dans le monde. Donc, c'est quand même pas non plus, il ne faut pas mettre les choses sur le même plan.
Vous vouliez dire quelque chose ?
Je profite toujours sur le terme de Lazare, et tout à coup, vous allez me dire, et peut-être il y a des spermatozoïdes plus forts que les autres, mais ce n'est pas de l'ordre de Lazare que les certains ovules choisissent certains spermatozoïdes, c'est pas de l'ordre de Lazare, je ne sais pas.
Je ne réponds pas à cette question-là qui n'est pas dans mon domaine.
Non, mais pour dire Lazare existe.
Bien sûr. Juste pour compléter ce que vient de dire Alain et un peu essayer de trouver une porte de sortie à notre dilemme, il y a une chose, c'est la validation collective. La science, la technicité qui nous entoure, elle a été validée collectivement par les résultats qu'on peut voir, etc. Ce que vient de dire Alain est important. Les thérapeutes quantiques sont une petite minorité face à une science officielle, vous avez oublié de le dire, mais en fait, qui est une science validée collectivement et qui a fait ses preuves. Les thérapeutes quantiques n'ont pas fait leurs preuves. Voilà. Et en plus, ils affirment des choses qui sortent du dogme. Et à chaque fois qu'on veut remettre en cause les découvertes scientifiques, on a besoin de preuves fortes. Et ils sont incapables de les apporter.
Voilà. Sylvie, vous voulez dire?
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Alain à propos de l'esprit critique. Je pense quand même, c'est vrai, il faut en avoir, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais je pense qu'un excès d'esprit critique peut amener le doute systématique aussi. Et je crois qu'on ne peut pas progresser là où se repose le problème de la confiance dont tu parlais. Je crois qu'on ne peut pas progresser si on est dans le doute systématique. On ne peut pas s'entendre entre nous si on doute chacun des uns des autres. Ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses entre un esprit critique
basé sur une réalité scientifique et un doute systématique dans lequel de plus en plus de personnes aussi, il ne faut pas croire, tombent. Voilà. C'est ce qu'on appelle le relativisme. Oui,
la distinction entre l'esprit critique et l'esprit de critique.
C'est pas encore autre chose,
mais il faut avoir l'esprit
critique. C'est encore autre chose, ça, l'esprit de critique.
Vous vouliez dire quelque chose?
Oui, mais on est toujours sur le même problème, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'un côté l'affirmation de quelques-uns qui ont pu vérifier une expérience, par exemple, mais... Pardon?
Quelques-uns nombreux.
Oui, quelques personnes. Mais,
de qui parlez-vous, précisez là?
Sur l'ensemble des individus que nous sommes, qui ont... Pardon?
Des scientifiques. Oui. Ah, de qui vous parlez?
Des scientifiques qui ont pu vérifier ces expériences-là. Les expériences sous la mécanique quantique.
Ils sont quand même des centaines dans le monde. Hein.
Oui, non, mais d'accord. Mais il y a 6 milliards d'individus sur Terre. Et si vous voulez, la plupart d'entre nous, enfin moi je parle de souvenirs que j'ai, c'est de la physique, de la mécanique classique que j'ai appris. Alors effectivement, vous êtes formaté là-dessus. Maintenant, on vient vous dire qu'effectivement, il y a du hasard, il y a quelque chose, il y a de l'ondulatoire qui ne bouge pas. Moi, effectivement, l'atome, c'était le neutron qui tournait hein, à toute vitesse. Ensuite, le proton qui tournait à toute vitesse. Et ensuite, effectivement, l'électron qui tournait autour du noyau à toute vitesse, si vous voulez. À un moment donné, c'était vraiment un cercle fait. Et puis après, on a dit, bon, éventuellement, ça peut être une ellipse, mais ça n'est pas plus loin. Donc, on est formaté là-dessus. Du jour au lendemain, on vous dit, écoutez, ça n'existe pas. Alors effectivement, on est heurté. Maintenant, je pense avoir un peu de réflexion, mais ça m'est complètement étranger. Ça heurte la plupart des informations que j'ai eues et qui ont fait mon identité, si vous voulez. Donc, effectivement, c'est à rapprocher avec quelqu'un. Et malgré tout, bon, je pense être rationaliste, si vous voulez, avoir un peu d'esprit critique. Néanmoins, on me dit, bon, il y a eu des expériences, ça a été renouvelé, ça a été fait, des... Mais bon, à mon niveau, concrètement, moi, vous parlez du GPS, le GPS, c'est de l'électronique. Bon, l'électronique, quelle la distance avec la physique quantique?
Justement, non.
Rien du tout, j'y vois rien. Donc, effectivement, il y a malgré tout une adhésion, si vous voulez, sur la base de la confiance, sur la base
oui,
de...
Je sais.
Oui. Voilà, il y a une adhésion parce que malgré tout, ma... Mon esprit me conduit à dire, bon, ben, je pense que des expériences vérifiées scientifiquement, ça doit être valable, etc. Mais pour la plupart d'entre nous, je pense qu'effectivement, entre ces affirmations-là, avec l'adhésion et la croyance ou la confiance, peut se retrouver sur un autre domaine, où il peut y avoir, dans la réalité, où on peut vous montrer qu'effectivement, je ne sais pas moi, un des célèbres, bien sûr, les expériences ont montré que ce n'était pas systématiquement fait, mais Uri Geller, le gars, il vient vous renvoyer, il vous tord votre cuillère. C'est vrai.
C'est la manipulation.
Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on vous montre une réalité, on vous dit ça, c'est pas vrai. Mais il faut être scientifique pour dire que ça n'est pas vrai, parce qu'on le montre en laboratoire.
Non, il faut être
illusionniste.
Je voudrais
revenir. Michel a une réponse. Parce que ce qui est.
Je finis. Par contre, de l'autre côté, on vous dit écoutez, ça n'a qu'un domaine appliqué, ça va à l'encontre de tout ce que vous avez appris, ça n'est pas vérifiable. Et en plus, bon, alors peut-être que le terme de hasard est. Coïncidence serait mieux passé que hasard, mais bon, peu importe. Il y a une notion de hasard. Vous dites donc. Il y a un problème.
Et Nicolas Didier, c'est impensable.
Oui, mais c'est impensable. Mais attendez, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez face à vous un sectaire qui vient vous affirmer, je ne sais pas,
oui.
Le peuple courant, c'est Dieu existe. Allez lui dire... C'est un bon
finissez, Michel, vous allez dire.
Comment allez-vous lui dire que ce qu'il vous dit n'est pas réel, mais ce que vous allez lui dire, vous, en lui montrant la mécanique quantique, à condition que j'ai la possibilité, je ne le ferai pas, hein, parce que je n'ai pas compris, je suis incapable de redévelopper ça. Eh oui. Comment voulez-vous lui dire ? Mais non, mais ça, ça, oui, ça c'est vrai. Ce que tu me racontes, c'est des stupidités. Ça, c'est la réalité, c'est vrai.
Je ne veux pas dire à quelqu'un qui est croyant que ce qu'il croit, c'est une stupidité. S'il croit en Dieu, je ne voudrais pas discuter avec lui.
Michel répond.
Oui, j'ai essayé de vous montrer, peut-être que je n'ai pas insisté assez là-dessus, que les fondements de la mécanique, la naissance de la mécanique quantique n'est pas liée à, je veux dire, un trait de génie de Planck ou d'Einstein, mais bien à la difficulté que l'on avait à comprendre un certain nombre de résultats expérimentaux. Et si vous voulez, c'est l'inadéquation de la physique classique à un certain nombre de problèmes qui commençaient à être vu expérimentalement, je veux dire, on trouvait des choses, si vous voulez, expérimentalement ou théoriquement, le cas de la catastrophe ultraviolette, les gens, ils disaient, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre théorie, voilà, notre théorie arrive à une absurdité, il y a quelque chose d'incomplet là-dedans, ou de, voilà, c'est un impasse, il faut en sortir. Pour l'atome d'hydrogène, c'est pareil, l'atome d'hydrogène, on ne peut pas comprendre avec le modèle qui est là, qui ne rayonne pas, qui n'est pas effondrement de l'électron sur le point, etc., donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à partir de là qu'on a reconstruit autre chose. Il y a eu d'autres tentatives, hein, mais celle de la mécanique quantique a marché, elle a été validée par les expériences, par le fait qu'on pouvait en tirer des conclusions qui étaient vérifiables.
Voilà, voilà. Très bon, c'est l'évolution.
Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas vérifier les vérifications en même temps. Mais si vous voulez, c'est une construction qui a été lente, en fait. Et à partir d'un échec de la mécanique classique, non pas surtout, il y a des choses qui vont très très bien en mécanique classique, hein. Moi je suis très content de la mécanique classique, bon, la plupart des problèmes à notre échelle, mais sur d'autres problèmes, il y a un échec, voilà, et il fallait passer, trouver autre chose.
Alain, puis après on va conclure peut-être, on approche le
sujet. Je vais répondre aussi sur le, je vais te répondre aussi sur le darwinisme, puisque tu as abordé un peu ce truc du hasard dans la transmission des gènes. Je continue ce que tu dis. Il y a des théories scientifiques, des théories physiques, enfin, physiques, qui ont essayé d'autres choses, d'autres voies, qui n'ont pas marché. Il y a aujourd'hui encore la théorie des cordes, enfin, etc., etc. Michel pourra plus en parler que moi. Et il y en a certaines qui ne marchent pas. On a découvert le boson de Higgs. Donc il y a des théories qui ont été abandonnées. Des théories qui sont en cours, hein, qui sont en cours de validation. Mais tant qu'elles ne sont pas validées, ils ne sont pas validés. Il faut trouver quelque chose. Les transmissions de gènes, c'est pareil. On voit que le résultat, on voit ce qu'on est, on voit le monde autour de nous. On se dit, ah, il n'y a pas de hasard. Puisque le monde, ça serait un hasard formidable qu'on soit là. Mais à chaque seconde, à chaque dixième de seconde de la vie, il y a des mutations. Des mutations qui réussissent, très très peu de mutations qui réussissent, et beaucoup de mutations qui réussissent pas. C'est ça le hasard. Dans la théorie darwinisme. Il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'un. Non. Et ça, c'est une pensée, à mon avis, un peu dangereuse. Enfin, je ne dis pas ça pour toi, mais c'est une pensée facile de croire qu'il y a quelque chose qui va dire ça va marcher. C'est vraiment le hasard. Et il y a des milliers et des dizaines de milliers de faisceaux, comme dirait Guillaume de Pointe, qui montrent que cette théorie liée au hasard marche. Et pas l'autre, justement. Pas le lamarckisme.
Est-ce qu'on peut conclure là? Il est midi, alors. Françoise?
Non, je ne vais pas conclure. Juste, je me dis, qu'est-ce que je peux tirer, moi, en tant que zététicienne, pour contrer les gens qui vont parler éventuellement de médecine quantique, tout en sachant que, là, j'ai compris, par rapport à l'échange des cellules, je peux dire, bon, vous vous basez pour guérir le cancer entre des échanges électromagnétiques. De cellules saines n'existe pas, mais dans mon domaine thérapeutique, alors le quantique, on le met partout. Là, je peux renvoyer simplement à ce que j'ai compris de la physique, éventuellement de la médecine, affirmer que le quantique, ça n'a rien à voir du tout avec la psychologie, ni même avec la psychanalyse, comme on l'a entendu pour la journée des associations. Il y a des domaines où je pourrais le dire franchement. J'ai retenu deux ou trois choses qui peuvent me servir pour dialoguer. Moi, je te remercie de ça. Pour moi, ça me suffit. Par rapport à ma culture, à ma petite culture scientifique, j'ai compris deux ou trois choses, j'ai pris des notes, je vais aller réécouter Michel sur notre site, mais je crois que c'est à nous d'avoir des arguments. Après, on ne va jamais convaincre, on l'a bien vu, on ne va jamais convaincre quelqu'un, mais je me sens moins bête quand même. Merci Michel. Voilà.